Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour Anissa Benani.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire FO de l'hôpital de Die.
Oui.
Et justement, j'étais en train d'apprendre qu'on est payé pour être syndicaliste.
Oui, absolument. Détaché, oui, ouais. C'est ça.
Donc vous êtes à 50% sur cette partie-là.
Absolument.
En quoi consiste un syndicat dans un hôpital?
Eh bien, il consiste à aider les salariés, qu'ils soient dans le soin, en administratif, en technique. Tous les salariés qui travaillent pour l'hôpital de Die, ou pour les hôpitaux en général. Donc on apporte notre aide, on leur donne on les informe sur leurs droits, on les défend lorsqu'il y a des conflits avec la direction, l'administration ou quoi que ce soit d'autre. On est là pour les épauler, pour les informer et pour parfois ça peut arriver quand il y a des mouvements de grève, on les informe et puis on leur donne des informations par rapport à ce qui se passe au niveau national. Et nous, on est FO, donc on reçoit des informations de Paris par rapport à ce qui se passe, puis au niveau du nouveau gouvernement, notamment les nouvelles lois qui sont passées. Et on fait beaucoup de revendications.
Alors, il existe plusieurs types de syndicats, on le dit tout de suite. Est-ce qu'il y en a d'autres présents dans l'hôpital?
Oui. Alors, depuis 2 ans, on travaille avec un autre syndicat, c'est CFDT. Ça se passe pas trop mal. Nous, il faut savoir qu'on est majoritaire. Donc, il y a eu des élections professionnelles qui nous ont nommés majoritaires. Et c'est vrai que ces 7 dernières années, on était majoritaire jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, CFDT crée leur propre syndicat, ce qui est très bien. Parce que, voilà, on apprend les uns des autres et puis... On a des divergences d'opinions, évidemment, mais en général, on va dans le même sens. Après, nous, on reste sur notre façon de penser, FO. Donc, on est là pour les salariés de manière globale et plus particulièrement, bien entendu, FO, c'est aussi les soignants, c'est ce qui représente la masse salariale la plus importante dans notre établissement. Voilà.
Et vous êtes vous-même aide-soignante?
Absolument.
Donc, on peut faire les deux?
On peut faire les deux, oui.
Ouais, ouais. Alors, on profite de vous avoir, et c'est l'objet de cet entretien, pour parler de cette crise de coronavirus, Covid-19, ou cette épidémie qui, évidemment, a quand même un peu touché le DIWA. Alors, qu'est-ce qui a dû être mis en place? Comment est-ce que vous avez abordé cette crise et quel travail il a fallu faire?
Alors, le travail, tout d'abord, c'était au niveau de l'organisation. S'organiser et trouver les moyens nécessaires, notamment les moyens humains, pour recevoir les patients atteints de cette maladie, c'est-à-dire la réorganisation des services pour pouvoir laisser la place aux personnes infectées par le Covid.
Alors c'est ça, c'est qu'il faut créer un espace spécial.
Particulier, voilà. C'est une organisation aussi au niveau des médecins, c'est une organisation au niveau du personnel, c'est vraiment... C'est une organisation en fait qui paralyse, je dirais, tout un établissement de santé, tant au niveau soins qu'au niveau administratif, au niveau de la direction, au niveau des techniques, tout ce qui fait que le Covid ne doit pas circuler dans l'établissement et tout ce qui est aussi de protéger les soignants, en fait.
Alors très concrètement, par exemple, vous avez mis une aile, là on connaît un peu l'hôpital de Die, comment ça s'est passé? C'est quel endroit que vous avez, j'allais dire, confiné, isolé?
Alors en fait,
combien de lits?
Voilà, alors c'est le 3e étage du SSR qui était jusqu'à présent, recevait des gens en rééducation, qui était monopolisé en fait pour cette infection-là, pour le Covid-19, et il y avait une quinzaine de lits à disposition. Donc tout le personnel qui travaillait pour le SSR ont travaillé pour le Covid-19. Des infirmiers sont venus en renfort aussi. Des élèves infirmiers aussi sont venus en renfort. Et donc, du coup, ça a été... On a pris le personnel en place. On a fait intervenir aussi du personnel qui ne dépendait pas de notre hôpital ou qui faisait partie de la direction commune ou qui venait aussi de Grenoble afin de pouvoir faire face à cette épidémie. Et de manière globale, c'est vrai que la situation a été prise rapidement et de manière, je dirais pas naturelle, mais de manière à ce que tout le monde puisse retrouver ses marques et que ce soit organisé. Mmh. En fait, tout réside dans l'organisation et dans les moyens. Donc, voilà.
Et donc, les moyens, vous les avez eus ? Des respirateurs, des masques, tout ça, non. On a entendu plein de trucs comme quoi il n'y avait pas de blouse, pas de trucs, pas de machin.
Il faut savoir qu'au centre hospitalier de Die, on n'a pas de service réanimation. On a un service d'urgence et de lit du HCD qui peut recevoir... des gens qui ont besoin d'urgence d'être pris en charge, mais nous, on recevait que les gens qui pouvaient rester sur l'hôpital de Die, donc qui étaient infectés, mais que les symptômes n'étaient pas développés au niveau respiratoire, c'est-à-dire qu'ils ne dépendaient pas d'une machine pour respirer. Donc ce qui a été bien, en fait, c'était une sorte de tremplin. C'est-à-dire qu'on reçoit les personnes qui sont infectées ou soupçonnées d'avoir le virus. Et ensuite, en fait, on les redirige vers les établissements de santé en fonction de l'état de la personne. Mmh. Si l'état se dégradait, on l'envoyait sur Valence. Et puis après, voilà. Après, le circuit, nous, ce qu'on faisait, c'est un tremplin, en fait. On accueille, on suit, on voit l'évolution de la maladie. Et si ça se dégrade, à ce moment-là, on les renvoie directement sur l'hôpital de Valence ou ailleurs, enfin là où il y a de la place.
Et sur le reste du matériel, par exemple, les masques, tout ça, enfin comment...
Alors,
On a entendu dire qu'il y avait des pénuries.
En fait, la pénurie, en fait, c'est au niveau national. Mais je vous dirais qu'au niveau local, en fait, on avait le matériel qu'il fallait. Alors, bien évidemment, on avait peur au début de ne pas avoir assez. Parce qu'on s'est dit, si la vague, elle est comme dans les autres grandes villes où on a pu en entendre parler, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Or, on n'a pas eu de problème de matériel. On avait les masques, on avait les surblouses. C'est vrai qu'après, il fallait en fait gérer le stock. C'est-à-dire, comme on ne pouvait pas anticiper sur ce qui allait se passer, il fallait faire attention à ce qu'on avait déjà en stock au niveau du matériel. Donc, au début, c'est vrai que c'était compliqué. On se disait, bon, est-ce qu'il va en avoir assez ? Parce que c'était un peu une peur nationale sur ce qu'on entendait dire à la télé, sur les soignants qui travaillaient sans masque, sans surblouse, ou alors avec une surblouse qu'il fallait réutiliser. C'était la peur de tous les soignants, et ça, je comprends tout à fait. Donc, du coup, l'anticipation, c'était l'art de... Il fallait anticiper et faire attention à la gestion des stocks. Ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, évidemment, on n'a pas eu beaucoup. Mais dans les cas de suspicion, il fallait quand même avoir ce qu'il fallait.
Vous parliez tout à l'heure du fait de faire venir des gens en renfort, etc. Comment ça s'organise ça ? C'est des gens qui n'étaient pas mobilisés sur d'autres hôpitaux ? Enfin, il y a quand même encore assez de soignants pour faire des renforts ?
En fait, les renforts dont je vous parlais, c'est surtout les élèves infirmiers. Mmh. Les élèves infirmiers qui étaient sur leur lieu de stage et que finalement, tout a été arrêté. Donc du coup, ces élèves infirmiers ont été appelés en renfort sur le site. Après, c'est aussi, ça dépendait des besoins réels, des besoins sur Grenoble, par exemple. Sinon, je pense que ce ne serait pas fait aussi naturellement. Après, on n'en a pas eu énormément.
Voilà, alors du coup, les 15 lits ont été remplis
Les 15 lits, ils ont été remplis progressivement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été remplis tout d'un coup. Mm-hmm. Mais progressivement, chaque fois qu'il y en avait un ou deux qui sortaient, un ou deux rentraient, voilà. C'était un flux constant, mais sans pour autant avoir 15 lits de prix au même moment.
Alors, est-ce que vous avez un peu des stats ? Combien de personnes, finalement, sont passées dans l'hôpital avec le virus ou soupçonnées de l'avoir ? Quel résultat ? Combien vous en avez envoyé en Valence ?
C'est difficile à quantifier à l'heure actuelle parce qu'en fait, on n'a pas réellement les chiffres. Parce qu'il faut savoir qu'en dehors de ça, il fallait gérer aussi d'autres services. Donc, pour l'instant, on n'a pas de chiffres. On sait que la crise, elle n'a pas été aussi importante que ce qu'on pensait sur le DIWA. Mais il faut savoir qu'on ne parle pas que du centre hospitalier, aussi des gens qui ont été malades du Covid chez eux.
Oui.
Donc dans le DIWA, il y en a eu. Chez
mais
eux.
Ne serait-ce que juste sur le centre hospitalier.
Alors sur le centre hospitalier, après ce qui avait été dit par la direction, on partait entre les suspicions et puis finalement le Covid aviéré, on peut dire peut-être une quinzaine de personnes.
Mmh, mmh. Comment ça s'explique ?
Ça s'explique que déjà, on n'a pas de transport en commun dans le Tiwa. Et puis, on n'a pas une masse de population énorme au mètre carré. Et c'est vrai que les maisons sont plutôt isolées, on peut dire. Donc déjà, ça a été, je pense, un point positif pour nos campagnes. Finalement, c'est positif d'habiter dans les petites villes. Et puis voilà. Puis après, on n'est pas des gens non plus qui je veux pas dire. On va sur Valence, mais on va pas beaucoup dans les grandes villes. Il y a des gens qui ont voyagé à l'étranger, qui se sont confinés au bon moment, qui ont peut-être développé des symptômes et qui finalement n'ont pas abouti à la gravité de la maladie. Donc voilà, je pense que c'est grâce à ça aussi.
Est-ce que les gens ont plus pris sur eux justement de rester chez eux et de d'être malades chez eux finalement que de se rendre à l'hôpital comme c'est parfois le réflexe dans des grandes villes?
Oui,
tout de suite,
peut-être que oui, en se disant que voilà, c'est un syndrome grippal, parce que c'est difficile aussi de
faire la différence.
De faire la différence et ça peut être grave aussi. Hein, il peut y avoir des conséquences graves d'attendre d'aller à l'hôpital. Parce que dès qu'on est essoufflé, quand il y a des difficultés respiratoires, c'est que derrière, la bactérie, c'est quand même, elle est là, quoi. Le virus, c'est bien, il est déjà dans les poumons. Mais je pense que peut-être que des gens ont pensé que c'était la grippe. Et du coup, ils se sont soignés par eux-mêmes. Et puis voilà, tout simplement. C'est vrai qu'après, on parle toujours au niveau scientifique. Mais si on regarde la réalité vraie, quand les gens vivent chez eux, quand ils ont une grippe, ils ne se déplacent pas à l'hôpital. Enfin, suivant l'âge, bien entendu. Après, quand c'est plus grave, forcément, suivant l'âge, eh ben, il vaut mieux rentrer à l'hôpital. Donc, je pense qu'ils ont dû se gérer comme ça. Et puis, le fait d'être isolé aussi, de se dire, bon, ben, je vais pas sortir, mais la plupart des gens ici ont un jardin. On habite, il n'y a pas des grandes barres HLM. On est moins susceptible de transmettre la maladie à ses voisins ou à des parents proches qui vivent avec nous. Je pense aussi, ça aussi, c'est un élément important.
Et sur la question de l'environnement, est-ce que c'est, je ne sais pas, moins pollué? Est-ce que les gens mangent mieux? Est-ce que c'est des facteurs je vais questionner le côté scientifique peut-être un peu, hein, mais est-ce que c'est des facteurs qui peuvent être pris en compte? On ne sait pas ça.
Franchement, ils ne savent pas, mais même les scientifiques ne savent pas si c'est une question de température, si c'est une question d'environnement, si c'est une question de pollution. En tout cas, tout est une question de circulation du virus.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il a moins circulé là ou qu'il était présent et que les gens l'ont mieux encaissé? J'ai trouvé ma question.
Alors, il va falloir... J'aimerais bien vous répondre, je ne sais pas tout.
Ouais.
Peut-être qu'on le saura. Mais on le saura. Mais là, pour l'instant, l'étude, elle se base surtout pour trouver un vaccin, en fait. Hein. Les scientifiques, ils ne se basent pas sur savoir. Il s'est posé des questions là, sur le niveau. Est-ce que parce qu'il fait plus chaud? Est-ce que parce qu'on est en montagne? Est-ce que... Moi, je pense que c'est la circulation du virus qui a fait que ça a été bloqué parce qu'on est isolé. On est quand même un peu isolé. Donc voilà. Puis les maisons, on a souvent tous des maisons ou alors un extérieur ou ne serait-ce qu'un jardin. Qui a fait qu'on n'était pas tous ensemble tout le temps confinés. Enfin, voilà.
Qu'est-ce que vous administriez quand vous recevez quelqu'un qui avait le Covid? C'est quoi le protocole? Non, mais parce qu'il y a bien sûr la fameuse chloroquine de Marseille, etc. Finalement, on soignait comment?
Ça a polémiqué. Ben, nous, en fait, on n'était pas à ce niveau-là. On n'était pas au niveau de la chloroquine. On était plutôt au niveau de traiter les symptômes, en fait, hein, pas la maladie en elle-même. Donc, est-ce que ça s'est fait sur Valence? Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a qui ont dû être traités par la chloroquine sur l'hôpital de Valence. Après, je ne connais pas les statistiques. Je ne sais pas quelles ont été les répercussions.
Donc, sur l'étape d'avant
L'étape d'avant, c'est vrai que chez nous, quand ils n'arrivaient pas trop mal. Enfin, ça n'avait pas encore... On n'est pas arrivé à un point à se dire, est-ce qu'on le met sous chloroquine ou pas? Donc, c'est surtout sur les hôpitaux de Valence, les grands groupes hospitaliers.
Du coup, vous donniez quoi, vous?
Comme je pense qu'ils ont géré beaucoup la symptomatique, en fait. Les fièvres, la difficulté respiratoire. Je pense qu'ils ont été beaucoup sous surveillance aussi, comme un syndrome grippal de base. Et après, voilà. Puis ils ont eu des tests aussi pour avérer qu'il y avait bien la maladie, pour pouvoir avoir un traitement adapté. Mais à ce moment-là, après, il faut demander aux médecins. C'est eux qui ont plutôt géré entre eux de manière collégiale, à savoir comment on allait faire.
Et puis, pour terminer sur les stats, si jamais, quel type de population c'était?
Quel type de population?
Plutôt âgé, plutôt jeune?
Plutôt âgé, oui. Bah comme c'est comme les statistiques nationaux. Hein. Enfin, voilà, hein. C'était surtout les personnes de plus de 65 ans. Hein. Voilà. Et puis les personnes aussi qui souffraient d'ALD. Donc en général, les personnes qui souffrent d'ALD, genre diabète, asthme et tout ça. Bon, l'asthme, ça pourrait être aussi un jeune âge, mais là, on n'en a pas reçu. Mais c'est vrai, les ALD contribuent beaucoup au fait que la maladie peut s'amplifier. Pour les personnes âgées, en tout cas, c'est vrai que... C'est un des paramètres à prendre en compte.
Question politique à la secrétaire FO. Est-ce que ça fonctionne avec cet état? Est-ce que pour vous, la réponse a été bonne au bon moment? Depuis combien de temps saviez-vous que le Covid allait circuler? Est-ce que vous avez été préparé à temps?
Et même eux, je crois qu'ils ne savent pas. Parce que c'est vrai que c'est nouveau, il n'y a pas de précédent, c'est difficile de...
Quand on entendait la ministre, ex-ministre de la Santé, dire qu'elle était au courant depuis le mois de décembre et qu'elle avait commencé à le dire, est-ce que ça s'est su dans les hôpitaux? Est-ce que vous aviez des redescentes, les ARS, tout ça?
En même temps que tout le monde.
Ah ouais.
Moi, je pense que...
Le jour où vous avez été confiné, c'est parti. Voilà.
Oui. Mais après, il y a eu des signaux d'alerte, je pense, au préalable. Puis après, avant de mettre les gens... de dire aux gens que vous êtes confinés, c'est parce qu'en fait, par rapport à une population, ils ont trouvé tant de cas et se sont dit que là, c'est une épidémie. Puis même au niveau mondial, ils ont bien vu qu'en Espagne, en Italie, tous les pays européens avaient été touchés. Et forcément, l'Europe étant ouverte, ça allait circuler d'une manière ou d'une autre. Après, ils ne savaient pas la rapidité de la pandémie à laquelle elle allait arriver. Je dirais qu'en fait... au niveau de l'État, de toute façon, nous, FO, nous, on se bat pas contre les politiques. On se bat pour nos soignants, on se bat pour les usagers, on se bat pour tous ceux qui travaillent dans les centres hospitaliers. Et c'est vrai que cette politique-là qui a été menée, elle a été menée de manière un peu... ça a tâtonné pas mal. Et ce que je dirais, c'est par rapport à la gestion du matériel, c'est par rapport aux stocks qui n'ont pas été renouvelés, c'est par rapport à... une politique qui date d'il y a 15 ans, ça fait une quinzaine d'années qu'on détruit le système de santé. Et donc forcément, il y a des répercussions. Et au moment où il y a une pandémie, on n'a pas le matériel. Alors que on peut dire qu'au niveau soignant, ça fait pratiquement une année, voire deux ans, que ce soit en EHPAD ou même en centre hospitalier, même au niveau des urgences, où on alerte. On alerte sur le manque de moyens, le manque de matériel.
Même des grèves, une grève
permanente. Voilà, il y a eu des grèves, il y a eu des démissions des aussi des médecins urgentistes, il y a eu des manifestations, il y a eu quand même il y a eu beaucoup de rencontres avec la ministre de la Santé à l'époque. Il y a des choses qui n'ont pas été faites parce qu'en fait, on n'a jamais été entendu. Le système français de santé est quand même est un des plus reconnus dans le monde et finalement, on est en train de le détruire et de le perdre. On a une population quand même qui vit pas trop mal grâce à ce système de santé. Et les usagers en ressentent maintenant les conséquences. Parce qu'auparavant, c'est vrai que quand on passait aux urgences, on était soignés, on sortait de là, au bout d'une semaine, deux semaines, suivant le niveau d'urgence. Mais après, on ne se rendait pas compte, en fait, du fait de rester un mois ou deux mois à l'hôpital, ce que ça peut être. Parce que c'est vrai que le personnel est toujours là, empathique, toujours à essayer de faire au mieux. Mais derrière tout ça, il y avait un manque de matériel et un manque d'effectifs. Et là, aujourd'hui, je pense que les usagers seront de notre côté quand on aura des manifestations ou des revendications pour demander plus de moyens, parce qu'ils ont été réellement impactés par la situation. Ça commence à se voir. C'est vrai qu'on avait des usagers qui étaient de notre côté, mais c'était plutôt des élus. Et nous, on regrettait la venue des usagers, parce que c'est leur hôpital, c'est leur santé, il n'y a rien de plus important. Et là, je pense que le fait qu'ils soient de notre côté aujourd'hui dans les manifestations, c'est un plus, parce que ça veut dire que c'est pas parce que eux, ils se rendent compte, sans être au travail, comme nous, on est au front ou alors dans les situations difficiles, qu'eux, ils se rendent compte qu'en fait, la situation n'est pas si facile que ça. Et que la sécurité sociale et tout ce dont nos aînés ont combattu, finalement, on est en train de le perdre au fur et à mesure. Ça s'effiloche. Et ça, c'est pas bon. Voilà, c'est pas passé de manière brutale. Donc, du coup, les gens ne se sont pas rendus compte. Mais nous, pour vous dire, ça fait 15 ans que je travaille à l'hôpital et 15 ans que je me rends compte qu'au plus ça va, au plus on a moins d'effectifs. Mmh. Au plus ça va, au plus la santé, enfin, le budget de la santé diminue.
Et puis des services qui ferment, ça, on le voit bien. Et des lits.
Oui, les services. Les lits qui ferment, ce sont des services qui ferment, On commence par des lits, mais c'est des services qui ferment. Il ne faut pas se leurrer. Et puis c'est pas parce que après moi je parle de l'hôpital de Die, je me dis c'est pas parce que c'est un petit hôpital qu'on mérite moins d'attention ou on mérite moins ou alors il faut qu'on se déplace jusqu'à Valence.
Puis on saturerait Valence après.
On saturerait Valence, qui saturerait d'autres services, qui sont obligés de ça, le débordement. De toute façon, ça sera une réaction en chaîne, c'est l'effet domino, faut pas se leurrer. Mais après nous on a des services existants qui sont quand même très bien pour la population. On a le SSR qui accueille quand même des gens de loin, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de place dans les autres centres de rééducation. Après, nous, on est un CSR aussi qui reçoit beaucoup de gens âgés, mais qui ont besoin aussi bien d'attention et de parcours de santé normal, comme n'importe qui. On a quand même On a des consultations externes qui ne sont pas négligeables. On a quand même la cardiologie, on a quand même on a un orthoptiste, on a l'échographie, on a le scanner. C'est pas négligeable pour les gens qui habitent sur le site, qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont des difficultés à se déplacer ou qui n'ont pas de famille ailleurs pour se faire soigner. Et il faut mettre, on a le CCP, donc c'est sûr que c'est pas la maternité, mais il y a quand même une équipe qui fait son travail, qui font des vrais suivis, qui sont vraiment à l'écoute, en lien avec le SAMU, les pompiers, l'hôpital de Valence. C'est pas facile de fonctionner avec.
Elle pourrait revenir à la maternité puisqu'on en parle.
Ça dépend de la politique du gouvernement, en fait.
Bon, il suffit de claquer des doigts pour la rouvrir, en fait.
Je pense pas que ce soit aussi facile. Je pense que ce serait compliqué, mais après, il faudrait que ce soit aussi un projet gouvernemental afin d'avoir aussi des services publics à proximité des petites villes, quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai que on aimait bien cette maternité, mais les fonctionnements coûtaient trop cher. Trop cher pour l'hôpital, aux dépens des autres services, du coup. Voilà.
Oui, s'il n'y a pas la volonté politique, effectivement, derrière, de payer, quoi qu'il se passe.
On pourra faire ce qu'on veut.
Est-ce que ça doit être rentable, un service comme celui-là ou comme un
La
autre
rentabilité, c'est ce qu'ils demandent, en fait.
Mais oui,
vous savez,
ça.
Sous couvert de rentabilité, ils demandent à faire des économies, mais c'est comme si on nous demandait d'être rentable, en fait. Parce qu'on sait que l'hôpital ne sera jamais bénéficiaire de quoi que ce soit.
Ben oui.
Forcément, c'est logique. Et en même temps, on nous demande de faire des économies. Ça veut dire qu'il ne faut pas dépenser trop d'argent. Ça veut dire que c'est compliqué à lier
Et donc, c'est comme ça qu'on ferme un service.
C'est comme ça qu'on ferme un service, bien entendu. Après, il y a aussi la population aussi qui a peut-être un manque de confiance de l'hôpital, alors qu'elle ne devrait pas, parce qu'il y a des gens qui parlent mal de l'hôpital et de l'hôpital de Die aussi. Et ça nous met en porte-à-faux parce que derrière tout ça, il y a aussi des salariés, il y a aussi des soignants. Il y a quand même 320 emplois. Et je me dis que non, on mérite plus de considération. On mérite plus de considération parce qu'on est au service de la population et parce que quoi qu'il arrive, on est là.
Ça permet de placer au passage que vous êtes le deuxième ou troisième plus gros employeur du Diois. Hein. Il doit y avoir Jaillance dans le tas et puis le lycée.
Voilà,
en gros. Vous disiez tout à l'heure, EFO ne combat pas le politique, mais veut défendre ses usagers et ses salariés. Est-ce que donc, vous êtes prêt à la prochaine crise? Si ce virus est saisonnier, alors faut s'attendre à ce que octobre, novembre, ça revienne. Est-ce que vous êtes correctement défendu?
C'est une bonne question. Voilà. C'est une bonne question. Après,
que fait le gouvernement pour vous, pour la suite?
J'ai envie de dire, là, on est à l'après-Covid. On va dire qu'on est à l'après-Covid.
Bah, c'est l'euphorie, on est là, content.
Je ne dirais pas. Non, là, c'est l'heure des règlements de compte, là.
Ah bon?
Je pense plus ça, parce qu'au niveau intersyndical, c'est vrai qu'on ne baisse pas la garde. On ne baisse pas la garde et on est toujours, au niveau info, en tout cas, c'est sûr, on est toujours sur le front à se dire, attendez, vous ne fermez plus de lits.
Voilà.
Les moyens au niveau des effectifs soignants, il ne faut plus qu'ils diminuent, mais il faut encore embaucher derrière.
Il y en avait de prévus, là, encore, à 10, par exemple?
Des
fermetures de lits ou des
non-recrutements
de soignants?
Non, ça, non. Alors, le recrutement de soignants, il est en cours. Alors, il faut savoir aussi que... au niveau régional, au niveau de la profession d'aide-soignant, on est quand même un métier sous tension. Ça veut dire que il n'y a pas assez d'aide-soignants par rapport aux postes à pourvoir. Donc là, on est en cours de recrutement. Ça recrute. Après, il faut savoir garder ces employés-là, ces salariés qui veulent travailler à l'hôpital de Die. Et on essaye de le faire de manière... on n'est pas de les arranger, mais de trouver des alternatives pour qu'ils puissent rester, les stagiériser au plus vite, proposer des contrats un peu plus longs parce que tout le monde a besoin de sécurité, la plupart des gens en tout cas. Donc les recrutements, oui, pour la période estivale surtout, puisqu'il y a les vacances, parce que nous, on a travaillé, on a beaucoup travaillé, donc du coup on a besoin de vacances, mais comme chaque année, je vais vous dire, chaque année on veut avoir nos vacances, donc oui, il y a une période de recrutement. Après, les IDE, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils peuvent travailler où ils veulent. Et puis, on reste sur nos gardes. On sait qu'on est capable, même en tant qu'un petit hôpital de Die, on est capable de pouvoir mettre des moyens en œuvre. On est capable Après, ben, c'est sûr qu'il nous faut le matériel. Comme vous dites, s'il y a une grippe, si elle revient au mois d'octobre, novembre, il faudra qu'on ait le matériel. Mais je pense que l'État et puis même le ministre de la Santé...
C'est prévu.
Ouais. Bah, du coup, il ne faut pas qu'il se rate, encore une fois.
Est-ce qu'une crise comme celle-ci a permis, parce qu'on en parlait un petit peu, de redorer au niveau de la population le blason de l'hôpital de Die?
Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce qu'on s'est senti soutenus. Et pour une fois, même pour tous les métiers, tous les petits métiers, dits petits métiers, c'est-à-dire voilà, tout ce qui était services municipaux, tout ce qui était ramassage d'ordures, tout ce qui était caissière, tout ce qui était... Ça fait toujours du bien, la considération, la reconnaissance. Ça fait toujours du bien, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien.
Et comment pourtant, elle vous est arrivée?
Elle nous est arrivée par les commerçants. C'est vrai que donc on a eu des pizzas gratuites, on a eu de la part d'Intermarché, on a eu des bocaux de nourriture qui avaient fait par des grands chefs, on a eu des bonbons, on a eu des gâteaux, on a eu des fleurs, on a eu et chaque semaine il y avait un truc et moi je peux vous dire par rapport aux autres soignants, on était vraiment contents, parce qu'on s'est dit bon, on n'a pas un super salaire, mais on a des gens qui sont derrière nous. Et être mis en lumière alors que pendant tant d'années, on était presque dans l'ombre. Comme je vous disais, les usagers, ils ne participaient pas toujours aux manifestations. Ils n'étaient pas toujours de notre côté parce qu'ils ne voyaient pas le travail, le vrai travail qu'il y avait derrière. Et puis les risques encourus aussi par les soignants et puis par leur famille, du coup. Et du coup, là, c'est vrai que la considération et la reconnaissance, c'était formidable. Et d'ailleurs, ben, on a dit merci, mais vraiment, on était contents.
Il y a un phénomène particulier autour de ce Covid-là, c'est que, bon, il y a eu un appareil médiatique, un appareil gouvernemental qui, comme on en parlait tout à l'heure, a sans doute eu tout d'un coup très peur pour que ça devienne quelque chose où tout le monde prend conscience et qu'il faut qu'on agisse très très vite. Et de l'autre côté, la mise en lumière effectivement des soignants de l'hôpital, alors que ça faisait 2 ans que c'était quasi grève permanente. Hein. Comment ça s'explique ça? Est-ce que c'est parce que réellement les gens ont eu peur ou est-ce que c'était le moment là où qu'on se rende compte que notre hôpital va mal ou qu'en tout cas on en a besoin et qu'on remet de la valeur?
Oui, bah oui, mais le fait que ça ait été médiatisé, bien évidemment, quand on voyait des services, des grands professeurs des services qui disaient on est démunis, on est obligé de transférer des patients en Allemagne, on est obligé de transférer des patients dans d'autres pays. Et de son côté, on s'est dit mais attends, mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. C'est ça aussi, en fait. Et les gens ont eu peur par rapport à ça. Et puis les gens se sont rendus compte qu'il y a des personnels soignants qui sont morts par manque de personnel, de matériel. D'abord, et puis le manque de personnel aussi qui s'en est suivi, parce que c'est vrai que tout le monde était... fallait travailler des semaines entières sans avoir de repos. Il fallait toujours être... Mais parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de matériel, pas assez de personnel. Et du coup, bah, ça a mis en lumière tout ça, parce que c'est des professeurs, c'est des aides-soignantes qui sont décédées, c'est des médecins qui sont décédés, c'est des cadres de santé aussi qui sont décédés. Et donc, on s'est dit, mais attends, si même au sein de l'hôpital, ils arrivent à décéder de ce Covid, ça veut dire que nous, à l'extérieur, croyant qu'on est en sécurité chez nous, peut-être que ça peut nous arriver aussi. Et que du coup, si on est admis en réanimation, peut-être qu'il n'y aura pas de place pour moi. Ou peut-être que je vais être pris en dernier. Ou peut-être que suivant mon âge, eh ben, on va me laisser partir avec sous morphine.
Oui, parce
ou
que
sous...
c'était ça. Ouais.
Voilà.
Il y a eu beaucoup de...
Voilà, mais c'est terrible d'entendre ça. On peut pas, enfin, voilà, en tant que parent ou proche de personnes âgées, c'est pas entendable. Et c'est là que les gens se sont dit, non, mais attendez, c'est pas possible. Donc, attends, il meurt, elle avait une famille, elle avait des enfants. Mais mon Dieu, comment ils font, quoi? Ils ont un rythme de travail terrible, ils ont une pression terrible, parce que quand on reçoit des gens, des patients, on veut pas qu'ils meurent, on est là, on veut les aider, on veut... Et puis en plus, ce qui s'est rajouté, c'est que la famille n'avait pas le droit de rentrer à l'hôpital. Donc, on s'est substitué aussi à la famille.
Ni même d'enterrer, enfin bon, c'est...
Mais même d'enterrer, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment... On était là du début jusqu'à la fin. Voilà. De l'accueil de la personne, on était là.
Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la seule dont le personnel peut mourir? quand on accueille Parce que j'ai l'impression que, voilà, quand vous, si vous recevez quelqu'un d'une grippe, bon, au pire, on prend la grippe et puis voilà.
Oui, pour jusqu'à maintenant.
Pour parler d'elle. Mais est-ce qu'il y en a une autre comme ça de maladie quand on reçoit à l'hôpital où il faut, faut se mettre en quarantaine et se blinder de protection quand on va soigner?
Après, ça dépend des infections. Il y a des infections respiratoires. Non, je pense pas. C'est vraiment spécifique au Covid, parce que très sincèrement, oui, évidemment, quand on sait que la personne a la gastro, on va éviter, on va se laver les mains tout le temps. On est d'accord? On va éviter ce genre de choses parce que c'est très désagréable. Et puis que ça peut affecter tout, plein de soignants. Voilà. Et puis du coup, plein de personnes qui ne sont pas venues pour ça.
C'est ça.
Donc du coup, non, mais il y a toujours des protections standards.
Oui, elles sont là, non, mais il y a un protocole hyper poussé sur l'hygiène. En hôpital.
Oui.
On a l'impression que celui-là passait un petit peu un cran au-dessus. Vous avez beau vous laver les mains et mettre des masques, bon.
Après, il faut avoir le matériel adapté, comme je vous disais. Et il faut qu'on puisse renouveler aussi ce matériel. Mais c'est vrai que comme c'était inconnu pour nous, en tout cas peut-être connu dans les labos, mais chez nous, non, c'est inconnu. Puis comme il n'y a pas de vaccin, et quand on voit la rapidité à laquelle ça agit, on ne peut pas anticiper quoi que ce soit. C'est pour ça que il fallait les protéger, parce qu'en plus, on sait que suivant les surfaces, ça restait tant de temps, puis dans l'air aussi, puis dans les postillons. C'est sûr. On a toujours les codes standards de protection au cas où. Si une personne arrive et qui tousse, on ne va pas attraper la tuberculose. On met un masque. C'est automatique quand même. Il y a des choses qui sont automatiques. Mais là, c'était un virus qui est compliqué. Symptômes grippales, ce n'est pas forcément le Covid. Et en même temps, ça peut l'être. Donc, c'est difficile à gérer ça.
Comment on va au front alors qu'on sait qu'on peut mourir?
Je rigole parce qu'en fait, ça me semble tellement naturel d'y aller quand même que...
Mais vous avez quand même conscience de faire partie des gens... qui y vont de manière naturelle, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les pompiers, l'armée le personnel de santé, franchement.
Oui. Je dirais qu'après, est-ce qu'on peut parler
de vocation?
Qu'est-ce
qui se passe dans votre tête?
On se dit qu'on est utile, qu'on est utile à la population, et on se dit que ces gens-là, il faut les protéger parce qu'ils sont sous notre responsabilité. Ça veut dire que...
Mais c'est énorme comme responsabilité.
Après,
en plus du risque mourir.
Oui, c'est sûr, mais on a pris les dispositions pour aussi, au niveau aussi personnel. Après, on ne savait pas si on avait été infecté auparavant, avant le confinement. C'est vrai que les maisons de retraite, elles ont été confinées une semaine avant. Donc on se disait le risque, il reste quand même modéré. Mais quand on a vu dans les autres EHPAD que c'était catastrophique. Quand une personne était infectée, forcément tout le service l'était, plus ou moins, parce que ils n'avaient pas été en quinzaine, comme on dit. Et puis en plus, ils n'étaient pas confinés dans leur chambre. Donc du coup, c'était... Mais nous, on se disait, on y va et puis on verra. On en parlait beaucoup, mais on a été aussi beaucoup épaulés par les médecins infectiologues, la sage-femme hygiéniste, par le médecin hygiéniste. Donc ils sont intervenus. C'est vrai que ce corps professionnel était super important, puisque eux, ils connaissaient mieux la maladie, les risques d'infection. Moins bien à Covid-19, mais bien entendu, de manière globale, les risques d'infection des maladies contagieuses comme ça, qui peuvent créer une pandémie. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas vu une collègue sourciller ou dire « Ah ben non, je ne viens pas, j'ai peur ». Non, on nous a dit « Vous portez des masques et puis vous vous lavez bien les mains ». Les protocoles d'hygiène ont été suivis, ils ont été même accentués. Les visites étaient terminées. Et puis nous, on vivait avec ces gens-là qui n'étaient pas malades. Et on ne voulait pas non plus les effrayer pour autant. On a essayé de faire une ambiance... pas familial, mais plutôt gay. Donc, on organisait nous-mêmes des activités. On était épaulés par des ergothérapeutes, des APA, qui font de l'adaptation physique adaptée. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ils aident à développer une certaine forme physique pour les patients âgés. Et puis, en plus, on s'est dit, pour une fois qu'on reconnaît notre utilité, au-delà de ce qu'on pouvait demander... Aujourd'hui, on met en lumière ce qu'on a toujours fait, en fait. On ne s'est jamais posé la question. Et puis, on a gardé le lien avec les autres familles, donc par rapport aux familles des résidents, notamment, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des visites, par Skype, par tous les moyens, en fait, moderne, Skype. Après, on téléphonait. Après, il y avait Messenger, les courriers. Je sais pas, de manière naturelle, on y allait, puis c'est tout. On se posait pas la question. De toute façon, après, il fallait y aller, et puis voilà.
Qu'est-ce qui va ou qui devra rester pour la suite dans les protocoles justement nouveaux qui sont arrivés à l'hôpital ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent être des améliorations ou... Je donne un exemple, mais je sais qu'il y a des magasins qui se sont mis à proposer du gel hydroalcoolique à l'entrée et un certain nombre de commerçants de se rendre compte que s'il y avait au moins une fois dans la journée où les gens se lavaient les mains, c'était peut-être un truc à garder pour plus tard.
Ah oui, mais ça c'est sûr,
alors,
ça va être gardé.
Alors qu'est-ce que...
Je pense, après je sais pas, nous au niveau soignant, de toute façon on se lave les mains toutes les 5 minutes. Alors bon, le gel hydroalcoolique, on l'a pas utilisé tant que ça. Parce
mais le fait qu'il n'y ait plus de visite pendant une période, et que là, vous allez rouvrir la visite. Est-ce que ces visites pourraient être ouvertes d'une manière différente ?
Alors là, elles ont déjà été reprises au fur et à mesure. La semaine dernière, ou non, il y a 2 semaines, le gouvernement a dit que les visites pouvaient reprendre sans surveillance, entre guillemets. Ça veut dire qu'il n'y a plus de plexiglas et il n'y a plus un soignant qui accompagne pour expliquer aux visiteurs comment il faut se laver les mains, signer une charte aussi, de respecter les distances de sécurité. Donc, il avait une surblouse, un masque et tout ça. Progressivement, donc là, on a arrêté ce protocole-là. Donc, les gens peuvent rendre visite à leurs aînés dans les chambres, que dans les chambres, pas dans les lieux communs. Pas plus de visites en même temps. Une visite par jour pour chaque famille. Et du coup, on leur recommande quand même en bas. Dans l'étage au-dessous, ils se lavent les mains toujours. Donc, ils se lavent les mains avec la solution hydroalcoolique. C'est la solution la plus rapide, en fait, pour se laver les mains de manière plus sécurisée. Et donc, ils signent toujours une charte comme quoi la distance de sécurité doit toujours rester. Et après, c'est de manière à dire aux gens, vous prenez vos responsabilités. Parce qu'on ne peut pas vérifier ce qui se passe dans les chambres. Et parce qu'à un moment donné, c'est vrai que ces personnes âgées ont besoin d'intimité. Ils ont besoin de retrouver leurs proches. Et donc, à ce moment-là...
Et peut-être de contact.
Voilà, de contact. Après, la difficulté, c'est que nous, on n'a pas envie, de tout le temps les surveiller, d'être omniprésents, à dire non, pas trop près, pas trop loin. C'est difficile. Mais en même temps, ils savent le risque qu'ils prennent, entre guillemets. Même si on sait qu'on arrive, a priori, d'après ce qui est dit à la fin de la crise Covid, il faut quand même garder... Et je pense que la solution hydroalcoolique, en effet, va rester. Le lavage doux aux mains aussi, ça va rester en tout cas pour les visiteurs. Le masque, on ne sait pas encore par rapport à ce qui est dit, mais je pense que comme nous, on a été confinés une semaine avant au niveau des EHPAD, je pense que peut-être que ça va durer plus en EHPAD, de manière à protéger un maximum la population vieillissante, enfin les personnes âgées, qu'ailleurs. Donc il y a des choses qui vont rester, c'est sûr.
Parce que le fait de ramener des maladies de l'extérieur, souvent par les gens qui visitent sur des personnes qui sont déjà alitées, qui viennent accumuler, c'est assez classique, ça.
C'est assez classique, mais en général, les gens, ils sont responsables.
Voilà,
ils sont responsables. Quand il peut arriver qu'ils aient que la grippe, comme l'année dernière, ils ne venaient pas. Un petit peu de fièvre, déjà, ils ne venaient pas. Voilà, ils sont responsables, franchement...
Et cette histoire de plexi, il y avait un plexiglas autour des patients ?
Alors en fait, c'était comme on a vu dans les autres EHPAD, quand les visites ont été autorisées de manière contrôlée. En fait, c'est l'installation d'un plexiglas transparent, bien entendu, entre deux tables. Voilà, de l'autre côté, vous avez des visiteurs qui arrivent dans un sens
un
de circulation.
Un peu comme un parloir, quoi.
Oui, il y en a qui ont ressenti ça comme ça, j'avoue.
Il y en a qui... Il y a certains de nos anciens qui l'ont vécu.
Oui. Il y en a qui ont ressenti ça comme ça, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que c'était important, ce lien social, parce qu'il y a des gens qui se laissaient vraiment mourir. Alors, pas dans notre EHPAD, parce que nous, on n'a pas ressenti forcément ce problème ou ce manque. Mais c'est vrai que... c'est vrai qu'au niveau national, c'était difficile. Les familles qui ne pouvaient pas avoir leur famille, ou leur père ou leur mère, et vice-versa, c'était super dur. Et donc, du coup, il fallait organiser quelque chose, le faire, mais sans trop le faire, quoi. On se voit, mais on ne se touche pas. Voilà. Après, on se parle, on ne s'entend pas forcément. C'est pour ça qu'il y avait des soignants qui, en fait, relayaient la parole du résident pour qu'elle soit entendue par la famille. C'était un peu... difficile. C'était bien organisé, mais c'était difficile. C'était plaisant pour personne. Mais au moins, il y avait la vie. Au moins, ils se voyaient entre eux, quoi.
Bon, pas de burn-out, alors, après cette période ?
Non, après, c'est comme dans toutes les périodes de crise, les périodes de guerre. Ils disaient, on est sous pression, on est sous pression, on donne. Et puis après, y a ce relâchement et puis cette prise de conscience du risque encouru, des difficultés qu'on a traversées, de la pression vécue.
C'est là qu'on tombe malade, d'ailleurs.
Et c'est là, moi, je dirais que... non, mais il y a quand même... Je pense que dans les grands centres hospitaliers, oui. Et après, je ne dis pas, on ne peut pas mesurer un sentiment par rapport à une autre personne, parce qu'à Paris, c'était catastrophique, autant elle va bien gérer. Mais autant elle a dit, c'était moins catastrophique, mais autant elle ne va pas bien gérer, parce qu'en fait, les sentiments, ça ne se pèse pas. Donc, puisqu'on a ressenti, ça ne se pèse pas non plus. Donc, du coup, c'est difficile à dire. Après, on a la médecine du travail, on a le psychologue aussi qui intervient. Il y a eu des associations pendant la crise qui se sont qui se sont avancées vers nous en nous envoyant des affiches comme quoi il y a des cellules de crise qui peuvent, on peut parler, des soignants, des écoutes pour les soignants qui sont en détresse. Mais bon, pendant une crise, on sait que généralement, c'est jamais fait. C'est surtout après. Donc je pense que ça va suivre, il n'y a pas de raison. Mais de manière globale... Il faut attendre encore un peu, je pense.
En espérant que ce ne soit pas effectivement un virus saisonnier qui nous revienne
droit
dessus.
Oui, on l'espère tous, franchement.
Et au niveau de la recherche, vous avez des,
non.
des nouvelles ? Non.
On n'a pas d'informations par rapport à ça. Et puis en plus, c'était vachement pointu. Pour qu'on sache quoi que ce soit. En tout cas, on sait qu'il faut qu'on se protège. C'est tout.
J'espère bien que le personnel hospitalier serait les premiers à savoir qu'il y a un vaccin, quand même.
Ah bah oui, on l'espère, bien sûr. Oui.
Un vaccin ou autre, quoi.
Oui, a priori, oui. En général, l'information ne circule pas trop mal, ça dépend. Bon. Mais en général, ça ne circule pas trop mal. Après, c'est vrai que ce serait bien qu'on soit au courant, bien entendu. Mais pour l'instant, à mon avis, au niveau mondial, c'est pareil. Ils sont dans l'incertitude, ils sont encore en recherche. Donc. Nous, on fait avec nos moyens, on se protège.
Anissa, peut-être pour terminer, alors les mouvements de ce syndicat FO sur l'hôpital de Die, est-ce qu'il y en a ? Est-ce que vous avez prévu des choses là pour les semaines, mois
Alors
à
nous,
venir
en fait, j'ai envie de dire, on suit le mouvement de manière nationale, au niveau aussi intersyndical. Ça veut dire tout ce qui se passe en région, nous, on a l'information. Et en général... On a tous les mêmes revendications. Alors, bien sûr, il peut y avoir des problèmes internes, mais qui sont réglés en interne. On arrive quand même à avoir des discussions directes avec la direction, ce qui n'est pas négligeable quand il y a des conflits et tout ça. Mais au niveau national, en général, c'est un appel de Paris qui nous dit, les revendications, on va relancer ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bien entendu, en général, on y va tous aux manifestations, on fait tous grève. On suit, mais on le suit parce que, en fait, ce qui se passe à Paris se passe à Die. C'est tout pareil, manque de personnel. Donc, du coup, en général, on est d'accord sur ce qui va se dire.
Voilà, mais comme ça faisait quasi 2 ans que c'était la grève permanente, est-ce que là, il y a... la crise étant passée, on a entendu dire, c'est toujours au même niveau.
Là,
donc,
il va y avoir, je le dis, mardi 16 juin, donc demain, à 13h30, il y aura une manifestation intersyndicale à Valence, au départ de Briffaut. Et c'est les revendications qui ont toujours été dites ces dernières années.
Les BEM.
Voilà, exactement. Et ce qui a beaucoup manqué pendant la crise. Donc, on redit et on redemande des conditions de travail de manière légale. Parce qu'il y a des fois, on travaille plus que ce qu'on le devrait. Une revalorisation des salaires. Et puis, arrêter de fermer les lits. Et puis, c'est toujours pareil. En fait, à la fin, heureusement qu'il y a des gens... On est persévérants. Et heureusement, parce qu'on répète ça depuis 15 ans, 20 ans même. J'ai jamais entendu dire que ouais, c'est super, à l'hôpital, on a tous les moyens, il n'y a pas de souci. On a même un peu trop, mais bon. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout le monde le sait. Et aujourd'hui, là, il faut que les usagers soient de notre côté.
Continuons de le répéter. L'éducation, c'est la répétition.
Absolument. Ouais. C'est sûr. Oui, c'est vrai.
Alors, on peut faire que ça.
Ouais. Oui, on peut faire que ça. C'est sûr qu'on peut faire que ça. Même si ça paraît...
On peut voter aussi, mais bon, c'est une fois de temps en temps.
Oui, on peut voter.
Merci d'avoir pris ce temps avec nous.
Mais de rien, c'est avec plaisir. Merci de m'avoir reçu.
Anissa Benani pour l'hôpital de Die, secrétaire FO. À la prochaine.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.